cet été, pas besoin d'aller très loin pour vivre la grande aventure. Ici, on mélange l'urbain et les espaces verts, on fait des road trips et on se gâte. Ici, on s'amuse en famille et entre amis. Ici, on fait ce simple. Parce qu'ici, c'est plus beau que jamais. Cet été, vivez des micro-aventures ici dans le Haut-Richelieu. Tourisme-haut-richelieu.com.
Ouais, attends. Chut. Silence.
Il y a un navire.
Non, oui, mais... ouais.
Choc.ca, RIDM et les soirées d'écoute publique présentent le concours de documentaires sonores « Le réel à l'écoute ». Vous avez jusqu'au 31 août pour participer et tenter de gagner une diffusion au RIDM 2020 et plus de 1 000 $ de prix. Pour connaître les règlements, rendez-vous sur choc.ca/réel.
Maudit, c'est vrai! C'est pourquoi ça?
Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca.
Vivez l'expérience immersive du SATFest à la Société des Arts Technologiques. Une compilation des meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par 15 artistes internationaux d'avant-garde qui vous feront voyager au cœur d'univers défiant vos sens et perceptions. De retour sous le dôme de la Satosphère, spécialement adapté pour assurer la sécurité de tous et présenté jusqu'au 31 juillet. Découvrez le programme sur sat.qc.ca. Vous écoutez une émission de Choc.ca.
Bonjour, bonsoir, c'est l'émission des Apatrides Anonymes sur Choc.ca, édition du jeudi 30 juillet 2020. C'est Simon qui vous parle, donc je suis à l'animation et au montage cette semaine. Job que Marie-Ève a assuré avec brio pour les deux émissions précédentes. On la remercie beaucoup, beaucoup. Montage parce que, vous le savez, depuis le mois de mars, on est en mode pré-enregistré, donc avec des nouvelles qu'on espère encore fraîches au moment où vous écoutez l'émission. Marie-Ève sera avec nous un peu plus tard, ainsi que Mathieu, évidemment, pour, comme à chaque fois, de l'actualité sur les phénomènes migratoires, les frontières, le racisme, l'obsession sécuritaire. On a une page Facebook où vous pouvez nous écrire et aller consulter du contenu complémentaire. On a l'adresse courriel suivante, apatridesanonymes@resist.ca. Vous nous écoutez peut-être en direct, mais peut-être aussi en balado-diffusion sur choc.ca ou dans notre site web apatridesanonymes.info. Avant de céder le micro à mes acolytes, on va commencer de manière positive pour faire changement avec ce qu'on pourrait appeler des bons coups de la semaine. On en a même deux pour vous. Le premier, c'est pour souligner une action qui s'est produite au bureau montréalais de Justin Trudeau. C'est le Migrant Rights Network qui a collé 200 grandes photographies de travailleurs migrants sur les murs extérieurs du bureau de circonscription de Trudeau à Montréal pour exiger un statut pour tout le monde. Donc, c'est assez impressionnant. Vous pouvez aller voir les photos via notre page Facebook. On a mis un lien. Deuxième bon coup de la semaine, une nouvelle toute fraîche au moment de préparer l'émission. C'est sûr qu'on va vous en reparler dans les semaines qui suivent parce que c'est une très grosse nouvelle. La fameuse entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs, entente qui oblige à demander asile seulement dans le premier des deux pays par lequel on est entré et qui a comme résultat de forcer les gens à entrer de manière dite irrégulière au Canada. On pense au chemin Roxham. Ben, l'entente a été invalidée par la Cour fédérale. Le jugement est assez sévère. On parle entre autres d'entraves importantes à la Charte des droits et libertés et de traitements cruels lorsque l'entente est appliquée. On peut penser aux enfants emprisonnés, séparés de leurs parents. Le jugement a été rendu le 22 juillet. La décision de la Cour va seulement être effective à partir du 22 janvier 2021, date à partir de laquelle l'entente sera suspendue pour 6 mois. Pour laisser le temps au gouvernement de s'adapter. Là. Donc, dans la prochaine heure, ben d'autres nouvelles comme ça à droite et à gauche. Sinon, Marie-Ève vous a préparé un dossier. En fait, deux dossiers sur la surveillance, la sécurité et le renseignement. Donc, un dossier plutôt national et l'autre, un bloc plutôt international. On aura aussi au menu de la bonne musique, comme d'habitude. Pour commencer, on va retrouver Mathieu dans un très court instant, dans un segment sur les réinstallations de personnes réfugiées ici et dans le monde. Vous êtes sur choc.ca, vous écoutez les Apatrides Anonymes.
Donc aujourd'hui, je vous parle de la réinstallation des réfugiés dans le monde avec des chiffres qu'on a reçus récemment. Ben, premièrement, une petite définition pour se situer tout le monde au même endroit. Donc, je vous lis ça. Les réfugiés conventionnés sont des personnes fuyant la guerre ou la persécution qui s'établissent ensuite dans un camp ou dans un milieu urbain dans un pays tiers, par exemple la Turquie ou le Liban pour les Syriens, la Tanzanie pour les Congolais. Si ces personnes ont la chance d'avoir des proches à l'étranger ou, beaucoup plus rarement, un gouvernement étranger qui s'engage à les parrainer, elles subissent ensuite une longue série de vérifications juridiques, médicales et sécuritaires avant de recevoir le statut de réfugié. Ici, par exemple, au Québec, les proches doivent, pour leur part, doivent soumettre un plan d'installation détaillé au gouvernement québécois. Une fois approuvé par Québec, ce dossier est envoyé au gouvernement fédéral et ensuite au Bureau canadien des visas, le plus près de l'endroit où la famille réside. Donc, récemment, fin juin, on avait les chiffres de 2019, les chiffres fournis par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. On parle de 107 800 réfugiés qui ont été réinstallés dans 26 pays avec ou sans aide onusienne, dont 31 000 au Canada. On parle pour les États-Unis de 27 500 et pour l'Australie de 18 200. Donc, le Canada est en première position pour une deuxième année consécutive. Peut-être un petit fait à noter, au Canada, la réinstallation se fait dans le cadre de programmes de parrainage privé en grande majorité. Dans les statistiques aussi plus globalement, au cours des 10 dernières années, 55% de tous les réfugiés réinstallés ont été accueillis aux États-Unis, à hauteur de 575 000, 20% au Canada, 210 000 et 11% en Australie, 114 500. À la traîne, les pays européens ont augmenté le nombre de places de réinstallation pour les réfugiés depuis quelques années, mais ça a pris du temps. On parle de 144 000 personnes accueillies entre 2010 et 2019, donc dans les 10 dernières années. Au niveau encore plus général, l'Agence de l'ONU estime que plus de 1,4 million de personnes étaient à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil soit une augmentation de 80 % depuis 2011, ce qui est un chiffre 80 % assez impressionnant. Au niveau des destinations ou des pays qui reçoivent, la Turquie demeure le pays qui en accueille le plus, avec 3,6 millions, surtout des Syriens, vous allez le deviner. La Colombie qui accueille beaucoup de Vénézuéliens, près de 2 millions. Ensuite, le Pakistan, l'Ouganda, l'Allemagne sont autour de 1, quelques millions. Si on compte par tête de pipe de population, l'île d'Aruba accueille le plus grand nombre, entre autres, de Vénézuéliens, et le Liban accueille le plus grand nombre de réfugiés, toutes catégories confondues, toutes nationalités confondues, essentiellement des Syriens, comme vous pouvez le deviner. Si on parle des demandeurs d'asile, parce que là, on a parlé des réfugiés qui sont vraiment considérés comme des réfugiés, qui sont dans des camps ou dans des endroits urbains précis, gérés en général par des agences de l'ONU. Mais si on parle des demandeurs d'asile en général, on parle de près de 80 millions de déplacés forcés dans le monde entier à la fin de 2019. 40 % ont moins de 18 ans. Quelques 2 millions de nouvelles demandes d'asile ont été présentées en 2019 dans le monde. La première place, c'est aux États-Unis. Ensuite, le Pérou, l'Allemagne, la France, l'Espagne et le Canada arrivent en 10e position avec 58 000 demandes reçues. Plus des deux tiers de l'ensemble des réfugiés et des personnes déplacées proviennent de 5 pays, on en a déjà parlé à l'émission, la Syrie, le Venezuela, l'Afghanistan, le Soudan du Sud et le Myanmar. Plus généralement encore, il y a quelques 100 millions de personnes qui ont été forcées de fuir leur domicile au cours des 10 dernières années, cherchant refuge à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières de leur pays. Et on observe depuis quelques années que ce sont les Syriens qui continuent d'être la plus grande population déplacée de force, 13 millions d'entre eux, moitié chez eux, moitié à l'extérieur du pays. Donc, j'ai donné beaucoup de chiffres, mais bon, vous réécouterez si c'était trop rapide ou trop consistant, mais il y a beaucoup de chiffres intéressants quand même là-dedans. Je suis tombé sur un article du journal en ligne de gauche, Ricochet, qui parle de la réinstallation des réfugiés dans le cadre de la COVID-19. C'est un article de la fin juin aussi dernier. Vous savez sans doute que le 17 mars, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations ont suspendu l'organisation des vols de réinstallation en raison de la COVID. Donc, selon les chiffres, plus de 1200 réinstallations de familles de réfugiés conventionnés ont été annulées. Ces dernières incluaient plusieurs familles syriennes, irakiennes et congolaises qui étaient en route pour le Québec. Peut-être vous dire aussi que quand l'autorisation finale de voyager est livrée par les autorités canadiennes, par exemple ici, les réfugiés ont bien souvent vendu toutes leurs possessions, résilié leurs baux et quitté leurs emplois. Donc, on dit, par exemple, à l'organisation, à l'ONG Action Réfugiés Montréal, je cite, « On dit aux familles au Canada de s'armer de patience parce que ça risque d'être long, de 6 mois à plusieurs années avant que les familles qui parrainent reçoivent des proches ou reçoivent des personnes qui avaient parrainé. » Au service des réfugiés jésuites, oui, ça existe bien à Montréal, je cite, on dit, nous sommes très inquiets parce que beaucoup de réfugiés vivent dans des foyers d'éclosion potentiels de la COVID, des camps ou des milieux urbains où elles n'ont pas toujours accès à des douches, des toilettes propres et n'ont pas beaucoup d'argent. Il faut savoir aussi que beaucoup disent que le gouvernement canadien, pour qui rapatrie les Canadiens et Canadiens, il pourrait trouver une solution sécuritaire pour rapatrier les réfugiés réinstallés. Il devrait pouvoir mettre en place des mesures pour permettre à ces réfugiés de contourner cette problématique dans le cadre de la COVID. Parce que, bon, on a été capable de rapatrier des centaines de milliers de Canadiens depuis le mois de mars, mais ça a l'air que les réfugiés réinstallés qui sont déjà acceptés, qui ont déjà leurs papiers, ben, on les laisse chez eux et toute leur démarche est remise en question. Par contre, si la réinstallation des réfugiés a été mise sur la glace à travers le monde, de nombreux pays, dont le Canada et les États-Unis, ont continué à expulser des personnes dont la demande de statut a été refusée. Entre le 1er mars et le 8 avril, le Canada a expulsé un total de 897 demandeurs d'asile. Pour l'instant, on sait que c'est officiellement suspendu les déportations, mais quand même, faudrait vérifier éventuellement les chiffres depuis le 8 avril s'il y en a eu d'autres. Il faut savoir aussi que pendant plusieurs semaines, le gouvernement canadien avait fermé la porte aux demandeurs d'asile qui arrivent par voie terrestre des États-Unis avant de permettre quelques exceptions à partir du 22 avril. On parlait des mineurs non accompagnés, des personnes apatrides, des personnes ayant déjà de la famille au Canada et les personnes qui font face à la peine de mort dans leur pays. Mais selon les chiffres de l'Agence des services frontaliers du Canada, 4 personnes seulement ont pu entrer depuis le 22 avril en fonction de ces dérogations. 41 ont été quant à eux renvoyées. Puis ce qu'on peut souligner en termes de conclusion, c'est qu'au niveau des réinstallations, de l'accueil des réfugiés, c'est très coordonné par des agences de l'ONU, c'est très bureaucratique, c'est très complexe, ça prend beaucoup d'autorisations, on essaie d'avoir une espèce d'entente entre les pays. Mais quand on parle des renvois ou des déportations, c'est tout le monde fait ce qu'il veut. Chaque pays décide de déporter, COVID, pas COVID, des gens. On consulte pas les pays où les gens vont être envoyés. On n'essaie pas de trouver des alternatives. Donc, ça serait intéressant qu'il y ait une coordination qu'il n'y a pas de déportation, évidemment, mais qu'il y a une coordination aussi effective entre les pays pour mieux réfléchir à la question des renvois et des déportations. Donc voilà, c'était ma chronique sur les réfugiés et les derniers chiffres qui sont disponibles.
It's you up on, let's tell it, okay.
C'était la pièce The Tar Pits, nouveauté de la formation montréalaise Borgud, B-O-A-R-G-U-D, groupe qui se décrit comme, attention, drone punk, mystique et cold wave trash. C'est sur le EP Near Extinction qui va être lancé le 4 août sur l'étiquette Kuchabata. Avant de céder le micro à Marie-Ève, une petite parenthèse toute française, c'est difficile de comprendre ce qui se passe actuellement dans la tête de Macron. Il subit claque sur camouflet, se fait doubler par la gauche, ben, disons centre-gauche et les écologistes. Dernièrement, c'était au municipal en France, il y a quoi, un mois environ. Malgré ça, il décide de remanier son gouvernement et de mettre en place non seulement des gens de la droite conservatrice dure, mais des bandits, des repris de justice, des misogynes, des vieux cochons accusés d'agression sexuelle. Faut dire qu'il est allé chercher conseil pour son remaniement auprès de Sarkozy. L'un des plus problématiques, c'est le nouveau premier ministre Jean Castex. C'est un proche de Sarkozy, un genre de technocrate très à droite qui conseille les puissants depuis des années, responsable de réformes très dommageables pour les services publics, pour les droits du travail, grand partisan d'un François Fillon, un autre escroc. Au ministère de l'Intérieur, Macron a nommé Gérald Darmanin. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de lui, donc contre le mariage gay, accusé de viol, de harcèlement sexuel, d'abus de confiance, et du coup, cerise sur le millefeuille, Gérald Darmanin a été l'avocat de Patrick Balkany, un autre mandarin accusé de toutes sortes de fraudes. Juste préciser, le ministère de l'Immigration a été supprimé en France en 2010 et les questions qui entourent l'immigration relèvent du ministre de l'Intérieur. Donc, à partir de maintenant, l'immigration relève de Gérald Darmanin et évidemment de quelques sous-fifres nommés qu'il aura sous la main, dont une certaine Marlène Schiappa ou Marlène Schiappa, je ne sais pas comment le prononcer, dont le titre officiel est ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté. Donc, on nous promet une lutte au communautarisme, rien de moins. Et Madame la ministre déléguée se définit comme féministe tout en donnant son plein appui à Darmanin et à Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, lui, a été nommé à la justice, bien qu'il ait trempé dans le même genre d'affaires croche. C'est aussi, comme Gérald Darmanin, un des avocats de Balkany. Donc, Dupond-Moretti, c'est un défenseur du droit au sexisme et un grand collectionneur de propos misogynes. Bref, plein d'anciennes nouvelles faces, toutes plus louches les unes que les autres. Portrait complet de la dizaine de ministres recyclés sur Nantes révoltées, un site qu'on aime bien aux apatrides, un texte que vous pourrez trouver en ligne qui s'appelle « Bal des guignols au gouvernement ». On est aux apatrides anonymes sur choc.ca. Je passe le micro à Marie-Ève qui va nous amener un peu partout, incluant ici même, pour différentes nouvelles un peu kafkaïennes en lien avec la surveillance, le renseignement. Marie-Ève, à toi la parole.
Depuis le début de la pandémie, on a pu constater qu'un peu partout dans le monde, les États ont tenté ou tentent de mettre en place différents outils technologiques pour contrôler la propagation du virus. Présentés comme des moyens de protéger la population, ces soi-disant solutions sont souvent invasives, servent à collecter une quantité phénoménale de données et s'apparentent davantage à de la surveillance et du contrôle social. Et souvent, les premiers à servir de cobayes pour tester ces technologies-là sont les groupes marginalisés. Au Canada, la pandémie a forcé la libération de plusieurs personnes détenues dans les centres de surveillance de l'immigration. Or, l'utilisation accrue de bracelets électroniques comme mesure pour remplacer la détention inquiète plusieurs spécialistes d'immigration qui considèrent que le gouvernement essaie de profiter du chaos de la COVID-19 pour implanter des mesures de plus en plus restrictives en matière de liberté. Faut savoir que depuis 2018, le port du bracelet électronique fait partie d'un projet pilote de l'Agence des services frontaliers du Canada, l'ASFC, qui a été implanté seulement dans la région de Toronto et qui devait prendre fin cet été, mais il a récemment été élargi au Québec avant même que le projet pilote fasse l'objet d'un rapport d'évaluation. Selon la SFC, 3 personnes ont été libérées de détention depuis avril au Québec, à la condition de porter un bracelet de surveillance électronique, contre 39 personnes dans la grande région de Toronto depuis le début du projet. Toujours selon la SFC, le programme de surveillance électronique vise à faciliter les mises en liberté de personnes dont le statut demeure préoccupant pour des motifs administratifs, sécuritaires ou encore en raison de l'impossibilité d'établir leur identité. Il y a Action Réfugiés Montréal qui dénonce le manque de transparence du gouvernement dans l'implantation du projet au Québec, puisque les groupes communautaires n'ont pas été consultés. La SFC, elle, se défend en disant avoir mis en place des mesures temporaires pour répondre au contexte de crise sanitaire qui exigeait une libération immédiate. Mais pour l'Association canadienne des libertés civiles, c'est la technologie elle-même qui pose problème puisqu'on a tendance à penser qu'elle est infaillible. Or, les données relatives à la surveillance électronique, à l'inverse de la détention institutionnelle, sont en effet pas comptabilisées ni surveillées publiquement. Et comme on parle ici d'immigration, si la technologie se trompe, bien, ça veut dire qu'une personne risque d'être envoyée en détention ou pire encore, d'être envoyée dans son pays d'origine où elle risque d'être torturée ou tuée. Aussi, même si la SFC assure limiter l'utilisation de la surveillance électronique aux personnes jugées à haut risque dans la collectivité et qui autrement seraient probablement restées en détention, le Conseil canadien pour les réfugiés, lui, considère que la définition de la SFC est très élastique et qu'il s'agit bien souvent d'une question de perception et de pouvoir discrétionnaire. Par exemple, il y a un couple de demandeurs d'asile qui a dû porter le bracelet électronique dans le cadre du projet pilote à Toronto en 2019 sur la base d'allégations de criminalité, mais il a plus tard été démontré que ces allégations-là étaient pas fondées. Et ça, c'est sans compter la dimension émotionnelle hein, de ces pratiques de contrôle d'immigration, de l'immigration, où les enfants de ces demandeurs d'asile risquent d'être marqués par la détention puis par les restrictions imposées à la liberté de leurs parents. Mais plus fondamentalement, la très grande majorité des personnes détenues dans les centres de surveillance de l'immigration au Canada le sont pour des raisons administratives et non pas sécuritaires et ne devraient pas faire l'objet d'une mesure de contrôle. Ce sont souvent même des demandeurs d'asile au même titre là, que les personnes qui travaillent hein, actuellement dans les CHSLD et qu'on appelle nos anges gardiens. Le bracelet est aussi une mesure qui sort les gens des murs de la prison, mais qui étend le filet de contrôle carcéral dans la communauté. C'est une façon de réduire les coûts de détention et de faire apparaître les mesures comme étant plus humaines que la détention. Maintenant, une autre technologie qui fait régulièrement les manchettes, c'est la reconnaissance faciale. Au début du mois de juillet, le commissaire à la protection de la vie privée au Canada a annoncé que la société technologique américaine Clearview AI allait cesser d'offrir son service de reconnaissance faciale au Canada en réaction à une enquête lancée par son bureau puis ceux de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec. Le retrait de Clearview comprend aussi une suspension indéfinie du contrat de l'entreprise avec la GRC, qui était son dernier client au Canada. Cette enquête-là a été déclenchée à la suite de reportages diffusés par les médias et qui soulevaient des questions sur la collecte d'informations personnelles sans consentement des individus. Un des éléments analysés par l'enquête concerne la destruction des informations déjà récoltées par Clearview sur des citoyens canadiens. Et parallèlement à ça, l'agence parlementaire doit mener une autre enquête qui, elle, va se pencher sur l'usage qu'a fait la GRC de la technologie développée par Clearview AI. Cette technologie-là inquiète de nombreux défenseurs de la vie privée parce qu'elle permet de récolter une énorme quantité d'images de différentes sources permettant aux forces policières, aux institutions financières et même à d'autres types de clients d'identifier des gens. On sait par exemple que des fonctionnaires fédéraux ont utilisé la technologie de jumelage de photos pour identifier les personnes, toutes recherchées là, par le biais de mandats d'immigration, qui ont utilisé de fausses identités pour demander des documents de voyage. Dans une lettre ouverte au ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, il y a près d'une trentaine de groupes et d'individus qui œuvrent pour la protection de la vie privée, des droits de la personne et des libertés civiles qui ont interpellé le gouvernement Trudeau pour qu'il interdise le recours à la surveillance par reconnaissance faciale par les organismes fédéraux d'application de la loi et de renseignement. Les signataires qualifient la technologie de très problématique, étant donné son manque de précision et son caractère invasif. Et ils invitent également le gouvernement à lancer une consultation publique sur tous les aspects de la technologie de reconnaissance faciale au Canada et à établir aussi des politiques et des lois claires et transparentes qui réglementeraient son utilisation, y compris des réformes de la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels. La lettre à M. Blair indique qu'une réglementation inadéquate de la reconnaissance faciale et un manque d'information signifie qu'il est impossible de savoir quelles forces de police et d'agences de renseignement utilisent l'outil et à quelle fin, y compris pendant des manifs. Elle cite des études qui ont déterminé que la technologie est inexacte et particulièrement sujette à une mauvaise identification des visages des femmes et des personnes à la peau foncée. Inutile de dire que ces erreurs-là peuvent rendre des communautés déjà marginalisées encore plus susceptibles de faire l'objet de profilage, de harcèlement et de violation de leurs droits fondamentaux. C'est particulièrement préoccupant étant donné l'utilisation de la technologie dans des situations où les préjugés sont courants, par exemple lorsque des personnes voyagent et traversent des frontières ou dans le contexte d'enquêtes criminelles et d'opérations de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Selon les signataires, si le gouvernement veut vraiment mettre fin aux disparités raciales dans les services de police, l'interdiction de la surveillance par reconnaissance faciale est une première étape cruciale et claire. Je vous reviens dans quelques minutes avec des nouvelles internationales. Vous écoutez les Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca. Something inside of me. Hard as my bed when I try to leave. Strong as my neck when I try to breathe. Plus in my death as I hide and weep. My uncle was tempted with irony. My uncle for dead when they try to sleep. My tears were shed but just silently. I did myself so violently. I'm feeling like any minute I won't let them in. I know that demons be eating me out. Every second here it's this electric chair. Through the windows they're seeing me shout. Don't know what people are thinking now. If I leave will they read about it? I'm addicted to how I feel. I'm addicted to how I deal. Cause I fuck with black magic, yeah. I fuck with black magic, yeah. I love the bad magic, yeah. I love the bad magic, yeah. Fuck all the mathematics, yeah. Fuck all the mathematics, yeah. I fuck with bad habits, yeah. I fuck with bad habits, yeah. I fuck with black magic, yeah. I fuck with black magic, yeah. I love the bad magic, yeah. I love the bad magic, yeah. Fuck all the mathematics, yeah. Fuck all the mathematics, yeah. I fuck with bad habits. These habits I have will never cease to exist. I believe in this shit. I grieve and then I leave in my grip. The hedonism got no air. I gotta breathe in the mist. The smoke in the air is prepared to host the evilness. How deep does it get? These potions I mix in a well. It's killing and kill. The end when they lift up the veil or lift up the curtain. If anything is so certain, the signals is working, this accent is so evil, I'm breaking. Yeah. I ain't showered in long, I'm always depressed, dejected every hour at home. The power of the clothes, the couch is getting higher and cold. I feel so alone, but I don't wanna pick up the phone. Cause I fuck with black magic, yeah. I fuck with black magic, yeah. I fuck with black magic, yeah. I fuck with I fuck with black magic, yeah. I love the bad magic, yeah. I love the bad magic, yeah. Fuck all the mathematics, yeah. Fuck all the mathematics, yeah. I fuck with bad habits, yeah. I fuck with bad habits, yeah. I fuck with black magic, yeah. I fuck with black magic, yeah. I love the bad magic, yeah. I love the bad magic, yeah. Fuck all the mathematics, yeah. Fuck all the mathematics, yeah. I fuck with bad habits, yeah. I fuck with bad habits, yeah.
On est toujours aux Apatrides Anonymes. Marie-Ève continue dans un instant ses nouvelles de délire technocratique sécuritaire, si je peux m'exprimer comme ça. Elle va nous amener davantage à l'international. On écoutait la rappeuse montréalaise Backswash. Je ne sais pas si je prononce bien, je vais l'appeler B-A-C-K-X-W-A-S-H. Elle est originaire de Zambie, mais maintenant installée à Montréal. La pièce, c'était Black Magic. C'est un featuring avec Ada Rook. C'est de l'album paru en mai dernier. Le titre est un peu long, God has nothing to do with this, leave him out of it. Album qui est sur la courte liste du prix Polaris 2020. Avant de poursuivre, j'en ai une nouvelle à vous partager, un peu dans la même mouvance, une histoire aussi abracadabrante que décourageante. Une fillette de 5 ans, syrienne, son prénom c'est Amira, ses parents, son frère et sa sœur ont été tués dans un bombardement. Elle est donc orpheline, seule dans un camp de réfugiés en Syrie. Elle est prise en charge par une ONG. Elle a un oncle qui vit à Toronto, qui est prêt à l'accueillir et à subvenir à ses besoins. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est que toutes les démarches qu'il a effectuées auprès du gouvernement canadien pour rapatrier la petite Amira, ben ça a donné jusqu'à maintenant aucun résultat concret. Le Canada n'a pas fourni de documents de voyage d'urgence, n'a pas formellement demandé aux autorités locales de la rapatrier et a refusé d'envoyer un représentant sur place pour faciliter les démarches. Il y aurait 47 Canadiens coincés actuellement en Syrie. Je pense pas mal tous et toutes dans des camps de réfugiés et contrairement à d'autres pays qui ont rapatrié leurs ressortissants, ben le Canada bouge à peine très très lentement et les réponses reçues restent très très évasives. Donc l'oncle d'Amira a décidé d'entamer des procédures judiciaire contre le gouvernement fédéral. Et espérons-le, cette poursuite pourrait peut-être contribuer au rapatriement des 47 Canadiens qui sont toujours coincés en Syrie. On va suivre l'évolution de ce dossier-là pour vous. Sur choc.ca, toujours, on retrouve Marie-Ève pour d'autres brèves internationales.
Lors de notre dernière émission, j'ai abordé la question de la liberté d'expression et de menaces que font peser sur elle certains régimes autoritaires, dont celui de la Chine à Hong Kong, sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Mais les Philippines, avec son président Rodrigo Duterte, n'est pas en reste et a même dégringolé à la 136e place sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Faut dire qu'en mai, le gouvernement a promulgué un décret ordonnant la fermeture des chaînes DBS-CBN, principal groupe de presse philippin. Duterte menaçait depuis des années de fermer ce groupe qui a largement couvert la guerre contre la drogue du président, guerre qui a encouragé les policiers à tuer les trafiquants de drogue et toxicomanes présumés. Pour vous donner une idée, à titre indicatif, selon l'Agence philippine de lutte contre la drogue, les policiers ont tué au moins 5600 personnes suspectées de trafic de drogue, mais des organisations estiment que le véritable bilan est au moins trois fois plus élevé. La journaliste philippine Maria Ressa est l'une des dernières cibles de Duterte. Cette ancienne journaliste de CNN est cofondatrice du site d'information en ligne Rappler, qui est visée, lui, par plusieurs procédures judiciaires après avoir publié des articles critiques de la politique du chef de l'État, y compris de sa campagne sanglante contre le trafic de drogue. En juin, Madame Ressa a été reconnue coupable par un tribunal de Manille et risque jusqu'à 6 ans de prison dans une affaire de diffamation un peu bizarre qui découle d'un article écrit en 2012 sur les liens supposés entre un homme d'affaires et l'ancien président de la Cour suprême. La plainte déposée par l'homme d'affaires avait été rejetée en 2017, mais le dossier avait ensuite été transmis au parquet, qui lui avait décidé de la poursuivre, ainsi que l'auteur de l'article, l'ancien journaliste Reynaldo Santos, qui lui a également été déclaré coupable et est demeuré en liberté sous caution. Les poursuites résultent d'une loi controversée sur la criminalité qui réprime la diffamation en ligne, mais aussi le harcèlement ou la pédopornographie. Cette loi-là est entrée en vigueur en septembre 2012, soit après la parution de l'article. Mais le parquet avait argué à l'époque que la correction d'une coquille typographique qui avait été faite en 2014, je vous explique la correction en question, Rappler avait remplacé le mot « évasion » avec un « T » par « évasion » avec un « S ». Donc, cette coquille, selon le parquet, faisait que l'article tombait désormais sous le coup de la loi. Kafkaïen, n'est-ce pas? Le gouvernement a rejeté les accusations selon lesquelles cette affaire-là était politique, comme on peut s'y attendre, affirme veiller à l'application de la loi, y compris pour les journalistes. Mais les organisations de défense des droits de la personne affirment quant à elles que cette affaire-là, les procédures fiscales contre le média Rappler et les efforts du gouvernement pour retirer ses accréditations au site relèvent du harcèlement. Tel qu'annoncé en début de ce bloc d'actualité internationale, revenons maintenant sur la Chine et Hong Kong, cette fois en passant par Londres, puisque le Royaume-Uni a annoncé le 20 juillet qu'il suspendait pour une durée indéterminée son traité d'extradition avec Hong Kong en réaction à la loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine dans l'archipel et dont je vous ai parlé à la dernière émission. Le Royaume-Uni a aussi étendu à Hong Kong l'embargo sur les armes qui était déjà appliqué à la Chine depuis 1989. Ça signifie qu'il n'y aura plus d'exportation d'armes potentiellement mortelles, ni de leurs composantes ou de leurs munitions, mais aussi de tout équipement qui n'est pas déjà interdit en Chine, mais qui pourrait être utilisé à des fins de répression interne. Le Canada, lui, avait adopté début juillet les mêmes mesures, tout comme les États-Unis et l'Australie. Le Royaume-Uni considère que la loi chinoise est une violation du traité sino-britannique qui avait organisé en 1997 la rétrocession de Hong Kong à Pékin. Ce texte-là, ce qu'il fait, c'est que Hong Kong se voyait normalement garantir jusqu'en 2047 des libertés inconnues et inusitées dans le reste de la Chine selon le principe de « un pays, deux systèmes ». En réaction, à cette loi imposée par la Chine à Hong Kong, Londres avait déjà annoncé élargir les droits à l'immigration aux millions de Hongkongais titulaires du passeport britannique d'outre-mer, ce qui leur facilite l'accès à la citoyenneté. Mais est-ce que le Royaume-Uni, comme c'est le cas de bien d'autres pays, applique une logique de deux poids deux mesures quant à la citoyenneté? La question mérite d'être posée, notamment quant à la politique du pays dans des cas en lien soit avec le terrorisme ou la sécurité nationale. Et à ce titre-là, le cas de Shamima Begum est exemplaire. Shamima Begum avait 15 ans et vivait à Londres lorsqu'elle a quitté le Royaume-Uni en 2015 pour rejoindre le groupe État islamique en Syrie. Sa nationalité avait été révoquée par le ministère de l'Intérieur pour des raisons de sécurité, après avoir été retrouvée dans un camp de réfugiés en Syrie en 2019. Maintenant, âgée de 20 ans, elle devrait être autorisée à retourner au Royaume-Uni pour combattre la décision de retirer sa nationalité britannique, puisque, selon la Cour d'appel, Shamima Begum n'a pas été entendue équitablement parce qu'elle pouvait pas faire valoir ses arguments depuis le camp syrien. Le jugement signifie donc que le gouvernement doit maintenant trouver un moyen d'autoriser la jeune femme à comparaître devant le tribunal de Londres, même s'il a répété à plusieurs reprises qu'il ne contribuerait pas à l'éloigner de la Syrie. L'Organisation de défense des droits de l'homme, Liberty, qui est intervenue dans l'appel de Shamima Begum, a salué la décision, évidemment, en affirmant que le droit à un procès équitable était un élément fondamental de notre système judiciaire et que l'égalité d'accès à la justice devait s'appliquer à tous et toutes. L'équipe juridique de Shamima Begum contestait la décision du gouvernement de révoquer sa citoyenneté pour trois motifs. D'abord, parce que cette décision était illégale parce qu'elle avait laissé Shamima Begum apatride. Deuxièmement, parce que ça l'exposait à un risque réel de mort ou de traitement inhumain et dégradant. Et finalement, comme je l'ai dit, parce qu'elle n'a pas pu contester efficacement la décision alors qu'elle n'était pas autorisée à retourner au Royaume-Uni. Rappelons qu'en vertu du droit international, c'est légal de révoquer la citoyenneté d'une personne, mais seulement si elle a droit à la citoyenneté d'un autre pays. Alors voilà, c'est ce qui conclut ce survol des actualités internationales.
Merci beaucoup Marie-Ève, Simon toujours à l'animation. Avant de poursuivre, un petit mot sur un dossier qu'on croyait réglé la dernière fois qu'on vous a parlé il y a deux semaines, les fameux « anges gardiens », entre guillemets, ces personnes sans statut ou en attente de statut qui travaillent ou travaillaient au front de la COVID, dans les CHSLD, dans les hôpitaux. On annonçait un programme accéléré de régularisation pour ces personnes-là. Eh bien non, ça bloque toujours au moment d'enregistrer l'émission. Il y a le fédéral qui veut ouvrir le programme selon ses propres critères relativement large, alors que le gouvernement Legault insiste pour que ce soit limité à ce qu'il définit strictement comme le personnel soignant. Donc, préposé aux bénéficiaires, OK, mais pas nécessairement personnel d'entretien, livreur, sécurité, etc., même si c'est en milieu hospitalier, dans des zones COVID. Là, il y a pas mal de gens qui attendent avec beaucoup, beaucoup d'impatience que le programme soit enfin effectif, parce qu'entre-temps, Immigration Canada continue d'envoyer des avis d'expulsion pour des gens qui seront éligibles au programme de régularisation accéléré quand il sera enfin prêt. Donc, ça doit être extrêmement stressant, extrêmement pesant pour ces familles-là. Donc, on va se croiser les doigts et espérer que le gouvernement du Québec arrête de faire des chichis qui font juste mettre la vie des gens en danger et, pour une fois, fasse preuve d'un peu d'humanité. Une autre édition des Apatrides Anonymes qui est pratiquement terminée. Et oui, j'espère que vous avez apprécié. On prend relâche pour la prochaine fois, donc ça nous mène à dans 4 semaines, soit le 27 août. Peut-être en direct en studio, puisqu'on annonce une réouverture graduelle des locaux de Choc, mais peut-être aussi une dernière fois en mode préenregistré. On verra, de toute façon, peu importe la manière, on va être avec vous sans faute le 27 août sur choc.ca. N'hésitez pas à visiter notre site apatridesanonymes.info ou notre page Facebook, ou n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse apatridesanonymes@resist.ca. C'était Simon au micro à l'animation. Marie-Ève et Mathieu nous ont présenté tout plein de bons contenus. On les salue et on les remercie pour toute cette recherche et cette synthèse, cette vulgarisation de sujets pas toujours faciles. Comme d'habitude, on finit l'émission avec de la bonne musique, une pièce de 10 minutes qui date de 2016, donc c'est pas une nouveauté, mais c'est local et indépendant. C'est le groupe Fudge, la pièce Sasser Facéré. On est ici dans ce stoner un peu plus méchant que d'habitude. Merci d'avoir été encore une fois au rendez-vous. Prenez soin de vous et les Apatrides Anonymes vous souhaitent un magnifique mois d'août 2020. À bientôt.